Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage, ce nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, c'est la seule chose qui va durer éternellement. Hein? Vous savez que dans Marc 13, 31, ça dit que le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera jamais, ne passera point. Et puis, c'est une promesse que Jésus nous a faite, c'est-à-dire que c'est une déclaration. Et puis, vous savez, il n'y a rien de plus... utile. Il n'y a rien de plus grandiose que d'étudier la parole de Dieu. Et on va le voir aujourd'hui dans le partage, parce qu'il y a à travers la parole de Dieu les révélations de Dieu. Et c'est par sa parole que Dieu nous donne les instructions, par ses révélations, par les révélations de l'Esprit. Et puis, c'est très important. Donc, je suis honoré d'être à ce rendez-vous avec vous dans la parole. Alors, ce soir, on est en intimité encore parce que Marilyn travaillait et puis qu'elle part en vacances dans les pays chauds la semaine prochaine. Pardon, donc elle part demain soir, donc elle est en préparation présentement. Et puis comme vous savez, comme je vous ai dit, j'ai développé une préférence pour ces partages qui sont faits dans l'intimité. Et puis, tout le monde a l'opportunité de toute façon d'écouter et puis d'aller écouter quand ils veulent. Sur Internet ou sur des CD. S'il y a des gens qui ont besoin des CD, ben, ils n'ont qu'à en faire la demande. Ça va me faire plaisir. Et puis, ça fait partie de notre ministère. Hein? Et puis, on veut saluer les gens qui nous écoutent sur Radio Prédication, les gens qui nous écoutent sur Tap Chrétien, les gens qui nous écoutent d'un peu partout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Claire et Nathan, évidemment, avec la famille élargie. Claire, tu peux m'envoyer de belles petites photos. Je serais peut-être intéressant de mettre ça sur le site. Et puis, c'est ça. Salutations à tout le monde et bienvenue à ce nouveau partage. Et puis, si vous voulez, on va prier, on va remettre ça au Seigneur et puis on va commencer. Eh bien, Père, nous voulons nous courber devant toi, Seigneur. Nous voulons proclamer que tu es notre grand Dieu. Et puis, Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes tes bénédictions, toutes tes grâces, Seigneur, que tu as pour nous. Seigneur, merci que nos noms sont écrits dans les cieux. Merci que nous avons une perspective éternelle, Seigneur. Merci que nous allons prendre part à l'éternité avec toi. Et puis, Seigneur, on te prie ce soir pour te remettre nos manquements, toutes nos fautes. On vient se faire laver les pieds. Seigneur, on te demande pardon pour toutes nos transgressions, nos iniquités, nos mauvaises pensées, nos convoitises, nos excès, notre mauvaise façon de s'exprimer. Et puis, pour tous nos fautes, Seigneur, nos manquements qui sont plus nombreux que les cheveux de notre tête, comme David disait. Et puis, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te demande ce pardon. Et puis, Seigneur, on te demande de nous laver en son nom ce soir, avant d'entrer dans ta présence. Et puis, Seigneur, on te prie pour justement que la parole vienne nous éclairer, vienne nous fortifier, vienne nous enseigner, nous exhorter. Qu'elle vienne arroser nos âmes, Seigneur, qu'elle vienne nous affermir, augmenter notre foi pour qu'on puisse être des gens, des serviteurs utiles dans ta maison, Père. Et puis, Seigneur, je te prie pour que tu mettes tes mots dans ma bouche pour qu'on puisse recevoir cet enseignement ce soir, qu'on puisse être fortifié et glorifié en ton nom. Seigneur, on te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, c'est ça, on est dans l'étude du livre des Proverbes, et comme vous le savez, au dernier partage, on avait vu les versets 12 à 14 du chapitre 29 du livre des Proverbes. « Quand celui qui domine à égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. » Je vous avais donné des exemples de ça qu'on a en tant que position d'autorité que Dieu nous a donnée. On a des responsabilités à s'arranger pour que les situations soient claires, les situations qu'on n'encourage pas, le mensonge, qu'on n'encourage pas, la médisance, la calomnie, hein, parce que la parole de Dieu nous dit que ça va corrompre les gens qui sont en dessous de nous, il y a une genre de corruption parce qu'on a encouragé des préceptes qui viennent du sans, ça s'est pas fait intentionnellement. Tu sais, on veut écouter tout le monde, on veut avoir une bonne oreille, mais ça dit qu'on doit, en tant que personne qui a été mise en position d'autorité, de faire attention à ce qu'on reçoit comme information. parce que ça va avoir une conséquence. C'est-à-dire que cette conséquence-là va faire que les gens qui sont en dessous de nous vont se laisser emporter par la situation, étant donné qu'on a donné accès aux gens, qu'on leur a ouvert la porte à ce genre d'activité. Mais ça va faire que ça va corrompre le rituel. Ça va avoir une espèce d'effet de corruption dans le groupe. Et puis, ça va aller très, très mal. Et dans le même contexte, on va voir ce soir que Dieu nous parle de l'éducation de nos enfants. On va voir ça un peu plus tard. Mais c'est un peu le même principe. Hein? Celui qui domine, c'est celui qui dirige. Celui qui a été mis en position d'autorité, eh bien, a une responsabilité par rapport aux préceptes de Dieu. C'est-à-dire, c'est important de suivre les préceptes de Dieu dans notre gestion, de peu importe laquelle, que ce soit dans notre famille, que ce soit au travail, que ce soit dans les activités sociales, dans le monde en particulier, où est-ce qu'on a des positions d'autorité. C'est important de suivre les préceptes de Dieu, et parce que le groupe ne s'en portera que mieux. Donc, le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et l'autre. Et puis, c'est pour vous dire que Dieu est... ce qu'on voyait dans ce verset-là, c'est que Dieu est souverain. Hein? Et puis, il a créé tout le monde, un et l'autre. Et puis, il éclaire les yeux de l'un et l'autre. Et puis, un par rapport à l'autre, on a des situations à gérer d'une fois à l'autre et qui doit être, selon ce que Dieu nous dicte de faire. Et puis, quelle est la meilleure façon de suivre les préceptes de Dieu, les amis? Ben, c'est d'avoir l'assistance du Saint-Esprit, notre Saint-Esprit d'amour, hein? Et puis, on veut toujours qu'il règne. On veut qu'il règne dans ce partage aussi ce soir. Et puis, on veut qu'il règne dans nos vies. Et puis, c'est à l'aide de ce GPS divin, hein? Vous êtes déjà comparé ça à un GPS qui nous conduit là où nous devons aller sans faire de détour, hein? Sans se perdre. Parce que si on n'a pas de GPS, on va se perdre. Et puis, c'est un peu la même chose dans ce monde avec le Saint-Esprit. C'est d'être sûr qu'on a notre relation avec Dieu est à jour. Nos fautes sont confessées. Et puis, que notre relation personnelle est développée d'une façon quotidienne. Et puis, cette façon-là, on s'assure d'une sécurité sur nos vies, d'une sécurité sur nos actions, sur les décisions qu'on va prendre. Et moi, je trouve ça, je trouve que ça a quelque chose de reposant. Tu sais, quand le Seigneur dit « Je vous donne ma paix », ben c'est un peu ça. C'est un peu ça, sa paix. C'est dans toutes les situations, on va savoir que Dieu nous a donné sa paix parce qu'on a suivi ses préceptes, parce qu'on a suivi le chemin qu'il nous montre par son Saint-Esprit. On va avoir une paix à l'intérieur de nous. Et puis, quand on va se coucher, on va dormir. C'est une expression, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je vais expérimenter la paix de Dieu. Et puis ça, c'est très précieux. Puis moi, je remercie toujours le Seigneur pour cette paix qu'on a en sa présence, que la paix qu'on peut avoir en Jésus-Christ dans toutes les situations. Pardon. Donc, c'est important. Pourquoi qu'on se priverait de ça, les amis? Pourquoi qu'on se priverait d'une telle sécurité, d'une telle paix dans notre quotidien? Pouvez-vous me répondre à ça? Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Puis on voit que, on a vu dans ce verset-là que juger fidèlement les pauvres, c'était aussi ne pas leur donner un passe-droit dans nos jugements parce qu'ils sont pauvres, justement. C'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'on doit encourager le vice dans leur vie. Hein? Comprenez ce que je veux dire? Donc, on se doit de juger les pauvres selon le cœur de Dieu. Encore une fois, comment que je m'assure que j'ai jugé une personne en étant en position d'autorité selon le cœur de Dieu? La seule façon, c'est d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, c'est d'avoir une révélation du Saint-Esprit. Et puis, avec cette révélation-là, encore, il y a la paix qui va venir. Et puis, savez-vous quoi? Nos trônes seront affermis pour toujours. Et puis ça, là, c'est important. C'est moi, c'est une promesse qui à laquelle je veux adhérer, à laquelle je veux me conditionner pour chacune des actions que j'ai à prendre. Vous savez, des fois, on a des situations et on ne se rend pas compte que quelle décision qu'on est sur le point de prendre, que ça peut, excusez l'expression, mais ça peut mettre notre vie tout à l'envers, tu sais, parce qu'on a pris une décision de la chair, inspirée de la chair sur le moment, mais on n'a pas vu les conséquences. Vous savez que la sagesse dit toujours que c'est les conséquences, c'est de voir la fin d'une chose. La sagesse, c'est de voir la fin d'une chose. Quand je prends une décision, quand j'y vois sous le coup des élans de mes passions ou les élans de ma chair, il faut toujours que je pense c'est quoi la fin de ça. C'est quoi la fin de cette chose-là? C'est ça la sagesse. Donc, voyez, dans ce précepte-là là, que je vous parle, il y a un moment où j'arrête. J'arrête. Wow! Arrête, ça va trop vite, là. Demande la sagesse du Seigneur dans cette situation-là. Prends le temps d'analyser ce que tu es en train de faire et puis arrête. Arrête puis réfléchis un petit peu là, à ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est sage? Ça va être quoi le résultat de ça? Qu'est-ce qui va être le résultat? Quelle va être la conséquence? Et puis là, si on ferait ça à toutes les fois, on aurait des vies qui seraient plus calmes, plus sereines. Une petite gorgée, pardon. Donc, c'est un peu la révision du dernier partage. Aujourd'hui, on va voir des versets très importants. Ils sont tous très importants, mais il y a toujours des versets qui reviennent et puis qui sont un petit peu sujets controversés dans les églises ou dans les enseignements ou peu importe, parce que ça a été mal interprété. Ou ça a été interprété avec la chair. T'sais, on a lu ça, on a lu des mots sur du papier. On a interprété ça avec notre raison humaine, notre sagesse humaine, qui est, en passant, selon la déclaration de Jacques, diabolique. Et puis, on se demande pourquoi ça va mal. Hein? Mais c'est un sujet important. Et puis, Dieu, vous savez que Dieu lance ses enfants dans le monde à travers nous. Dieu va lancer ses enfants dans le monde à travers les parents. Et puis, à plusieurs endroits dans les Écritures, ça dit de corriger nos enfants. Corrige, je vais aller au verset 17. C'est-tu là qu'on était rendu? Avant que j'aille trop vite? Oui, verset 17. Regardez ce que ça dit. Dans la version Louis Sagan, ça dit « Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. » Dans la version Louis Sagan, dans la version Darby, pardon. Ça, c'est la version Louis Sagan, pardon, je viens de vous lire. Dans la version Darby, corrige ton fils et il te donnera du repos et il te procurera des délices à ton âme. Bon. Il y en a un qui c'est châti, l'autre c'est corrige. Vous voyez? Il y en a un qui a utilisé un mot pour traduire le mot hébreu. Qui dit. Qui veut dire, entre autres, la discipline, l'instruction, entre autres. Donc, vous voyez, l'interprétation des paroles, des Écritures, ça peut porter à confusion, surtout si ce n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir par rapport à ça? Vous savez, tout le monde va être d'accord avec ce que je vais vous dire. Nos enfants sont le reflet de nous-mêmes. C'est-à-dire que les enfants, là, ils vont être exactement comme les parents vont les avoir élevés. Si je ne reprends pas mon enfant, est-ce que mon enfant, il a de la sagesse? Est-ce que la sagesse, moi, j'ai 50 ans, là, puis je trouve que je suis pas sage encore. Imaginez quand j'avais 18 ans. Puis que j'étais fougueux, puis j'étais les passions, puis j'étais un passionné, puis nos enfants sont comme ça, hein? Ils sont passionnés, ils sont fougueux. Et puis là, ils ont des élans qu'il faut leur expliquer que ces élans-là, là, c'est pas toujours des bons indicateurs dans leur vie. C'est surtout le contraire. Hein? Ben, c'est ça. Ben, quand nos enfants, savez-vous quoi? On a une responsabilité de leur donner un cadre. Les enfants qui sont laissés à eux-mêmes, ce sont les enfants les pires, les plus dysfonctionnels. les plus, ceux qui ont le plus de problèmes en société. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encadrés. Ils n'ont pas été encadrés. Le meilleur exemple qu'on a de ça, un des exemples, vous allez me dire que c'est pas tous les enfants pareils, mais je vous parle en général. Regardez les enfants qu'on inscrit comme moi, ma fille, je l'avais inscrit au scout, là, dans, je sais pas comment ça s'appelait, dans, je pense que c'est souvent, vous savez ce que je veux dire. Bon, ça, c'est un cadre, elle adorait aller là-bas. Vraiment, là, elle adorait ça. Savez-vous pourquoi? Parce que les enfants, là, ils se sentent sécurisés quand ils ont un cadre de défini. C'est-à-dire qu'il y a un emplacement qui est défini. Voici quelles sont les instructions. Voici qu'est-ce qu'on s'attend. Voici ce qui va arriver si tu le fais pas. Voici ce qui va arriver si tu le fais. Il y a même un processus de récompense, de médaille. Il y a même un processus de punition. Il y a même un processus de correction. Ben ça, les enfants sont bien là-dedans. Ils se sentent bien parce qu'ils savent où ce qu'ils en vont, où d'où ils partent et où ils s'en vont. C'est quoi les objectifs? Il y avait des degrés là-dedans. Il y avait des... Ben, vous savez, c'est très, très bon comme inspiration pour nos enfants. On devrait s'inspirer de ces, des fois, ces programmes-là, mais parce que c'est bien un programme humain, mais quand même, c'est un programme humain aussi qui, vous savez que les scouts, ils prient, hein. Ils ont quand même la foi. Et il y a la notion de Dieu. Je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était comme ça. C'était des gens qui l'enseignement de la parole, où c'était important que Dieu avait sa place. Et puis, tant mieux si c'est encore comme ça, je ne sais pas si c'est encore comme ça, il y a tellement d'affaires qu'on voit qui arrivent maintenant dans nos sociétés, que dans le fond, on est content, on dit « Viens Seigneur, viens hein. », on voit toutes ces choses-là, on dit « Bon, voici, la fin sera bientôt ». L'apostasie arrive à sa fin. Et puis, corriger nos enfants. Châtier puis corriger, là, c'est différent. Corriger, c'est enseigner. C'est donner aux enfants un cadre. Quel cadre qu'on donne aux enfants? Imaginez-vous les parents qui sont sans Dieu. Quel cadre ils donnent à leurs enfants? Ils donnent le cadre de la société? Qu'est-ce qu'on dit dans la société aujourd'hui? C'est quoi les valeurs qu'on véhicule dans la société aujourd'hui? On ne partira pas un débat là-dessus. Mais on peut comprendre pourquoi il y a tant d'adolescents et de jeunes adultes en difficulté aujourd'hui. Parce que ils n'y ont plus, les points de repère qu'on leur a donnés, ce sont des points de repère humains. Ce sont des points de repère du monde. Et ce sont des points de repère qui ne leur apportera jamais la satisfaction. Et puis, nous, en tant que parents, on a la responsabilité de donner l'enseignement, d'enseigner nos enfants selon les préceptes de Dieu. Oui, ils vont les faire leurs erreurs. C'est correct. Tu sais, il y a plusieurs façons d'apprendre quelque chose. Moi, j'ai souvent dit à ma fille, il y a deux façons. Souvent, ma fille, elle me répondait, oui, mais vous autres, vous l'avez bien fait. Elle se demandait, comment ça que vous autres, vous l'avez fait, puis là, vous me dites de ne pas le faire. Bien là, j'expliquais, parce qu'il y a des conséquences. Regarde nos vies ont été brisées, et nos vies ont été affectées par les décisions qu'on a prises. Puis là, je lui disais l'exemple du rond de la cuisinière. Hein? Je vais essayer d'utiliser des noms français pour que les gens me comprennent. Au Québec, on appelle ça le rond de poêle. Mais moi, je disais à ma fille, regarde, le rond ici, là, il est chaud. Si tu y touches, tu vas te brûler. Tu vas te brûler gravement à part de ça. À ce temps, la décision, elle t'appartient. Il y a deux façons que tu peux l'apprendre. Tu peux m'écouter. Quand je te dis que le rond, il est chaud, puis fais attention, tu vas te brûler. Ou, tu peux y toucher. Tu vas l'apprendre. Les deux façons, tu vas l'apprendre. Soit tu m'auras écouté, ou soit tu m'auras pas écouté, puis tu t'auras brûlé, puis là, tu sauras après, mais tu auras une brûlure. Tu comprends? Fait que c'est de même que j'ai expliqué ça. Mais quand même, nos enfants veulent faire leurs expériences, et puis c'est d'accord, c'est correct. C'est correct. On a fait les notes, hein? Et puis moi, souvent, je dis à ma fille, ben, oui, ben, tu vas faire tes choses, puis tu vas prendre ton expérience, tu sais, puis Moi, j'étais pareil, là. Mes parents, ils me disaient qu'il y a des choses, puis dans le fond, je les ai faites mes expériences. Mais au moins, on a la responsabilité de leur indiquer le cadre. Puis le cadre, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur nous a donné comme enseignement. Le cadre, c'est quoi? C'est les préceptes de Dieu. On a une responsabilité d'enseigner nos enfants selon les préceptes de Dieu, selon ce que la Bible nous dit. Et puis, savez-vous quoi? Ça dit, si je le fais, ben, cet enfant-là me donnera du repos et procurera des délices à mon âme. Donc, pourquoi on ne le fait pas? Ou pourquoi on hésite à le faire? Mais une fois, vous savez, on a de la difficulté à reprendre nos enfants. Mais vous savez, plus que je vais attendre pour reprendre mes enfants, pire ça va être. Plus que je vais être, à un moment donné, je vais être incapable parce que mon enfant, il donnera plus de crédibilité à mes avertissements. Parce que j'ai jamais de conséquences. Donc, c'est important. Le message du Seigneur ce soir, c'est important. C'est une des responsabilités qu'il nous a données, c'est être des parents qui lancent leurs enfants dans le monde, les enfants du Seigneur, selon ses préceptes, leur montrent le chemin. S'ils le prennent ou ne le prennent pas, ça ne nous appartient pas. Ils ont leur libre arbitre. Mais nous, en tant que parents, nous avons la responsabilité de donner l'enseignement à nos enfants selon les préceptes de Dieu, de leur montrer ce qui est droit, de leur montrer le chemin qu'ils doivent prendre et de les habituer à aller dans la parole de Dieu. Et puis, s'ils ne le font pas, à ce moment-là, nous, on aura fait ce qu'on avait à faire. Mais imaginez si je ne le fais pas. Si je ne le fais pas, puis en plus, qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai déjà vu un témoignage d'une personne que son enfant était venu lui faire des reproches. Imaginez. Imaginez votre enfant qui revient là, à l'âge adulte, puis il vient de dire, c'est ta faute si j'ai ces problèmes-là aujourd'hui. C'est ta faute parce que tu ne me l'as pas dit. Ça devait être assez spécial, ce moment-là, avec son enfant. Son enfant était venu vraiment, puis il était très, très dur. Puis il a dit, toi, tu avais la responsabilité de m'enseigner les choses. Tu étais mon père. Et puis, tu ne l'as pas fait. Et puis, regarde ce qu'est ma vie aujourd'hui. Puis, si ma vie est comme ça, c'est à cause que tu n'as pas fait ton travail de père. Imaginez, c'était très, très dur comme intervention. Mais, il avait raison. Il avait raison. Ce jeune homme avait raison. Et ce jeune homme, il avait des problèmes de drogue. Il avait plusieurs problèmes. Et puis, si j'ai donné l'enseignement à mon enfant, et puis s'il a décidé de prendre ce chemin-là, ben, il pourra pas dire plus tard, tu me l'as pas dit. Il pourra pas dire plus tard, bon, ben, t'aurais dû m'enseigner, t'aurais dû prendre soin de moi, t'aurais dû me guider, me montrer le chemin. Non, je te l'ai montré, puis t'as pas voulu te suivre. Ça, c'est dommage. Je vais être avec toi pareil, je vais t'aider. Parce que t'es mon fils, t'es ma fille. Je vais t'aider pareil, je te juge pas. Mais je respecte les choix que tu as faits. Maintenant, je vais t'aider si tu veux. Mais c'est une conséquence des choix que toi, tu as décidé de faire, mais tu savais quel était le bon chemin. Si tu as décidé de prendre l'autre chemin. Vous comprenez? Donc, c'est important. C'est très important. Donc, un message ce soir, les amis, on a une responsabilité envers nos enfants. On a une responsabilité que Dieu nous a donnée. Souvent, je vous ai parlé dans ce chapitre-là qu'on avait été mis en position d'autorité. On a été mis en position d'autorité sur nos enfants. Pour les enseigner, pour les corriger, pour leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre. Comme notre Père l'a fait pour nous. Jusqu'à ce qu'ils aient un âge de développer leur relation directement avec le Seigneur. Verset 18, quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'ils observent la loi. Pardon. Donc, dans la version Darby, maintenant, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bien heureux celui qui garde la loi. Vous savez, il y a plusieurs versets, là, je regardais dans les commentaires tantôt pendant les louanges, il y a plusieurs versets qui nous disent que quand le peuple est sans la parole de Dieu, est rare, Le peuple devient en détresse, devient comme des brebis égarées. Hein? C'est toujours l'image du berger et des brebis. Dans Marc 6, 34, c'est quand il est sorti de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. C'est quoi le but des serviteurs de Dieu maintenant, de ceux qui parlent de la parole de Dieu, comme moi, c'est d'enseigner les gens à développer une relation avec leur berger. Et leur berger, c'est qui? C'est Jésus. Donc, on le voit dans Marc 6, 34. Donc, c'est important qu'on donne cette vision-là. C'est important en tant que chrétien qu'on donne cette vision-là aussi aux gens qui commencent à ne pas porter attention aux personnes, aux ministères, mais à développer, à apprendre à développer leur relation personnelle avec le Seigneur pour qu'ils deviennent leur berger. Et puis, dans 2 Chroniques 15, verset 5, ça dit, dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Puis au verset 3, ça disait, pendant longtemps, il n'y a pas eu pour Israël ni vrai Dieu, ni vrai sacrificateur qui enseignait ni loi. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des gens qui sont perdus. Puis ça fait de grands troubles, hein? Ça dit dans le verset 5 qu'il y avait de grands troubles. C'est sûr, il n'y avait plus de direction. La parole de Dieu n'était plus là. Et puis on voit ce qui se passe là, partout dans la société où il n'y a pas de parole de Dieu. C'est exactement ce qui se passe. Il y a de grands troubles, effectivement. Et puis, dans le verset Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, c'est clair, hein? C'est clair que on doit, comme je vous disais, la parole de Dieu, c'est très important dans nos vies. C'est notre point de repère, c'est notre phare chrétien. C'est la parole qui nous sert de phare pour se connecter à la lumière qui vient de Dieu. Et puis, par le Saint-Esprit. Et puis, ce phare-là, on ne doit pas le perdre. Si on perd le phare, on va aller naviguer dans les eaux troubles. Et puis, on peut frapper des tempêtes. Hein? On peut faire des naufrages. Et puis, je donne des images que le Seigneur me donne, là, à mesure que je vous parle. Donc, la parole, c'est comme un phare, un point de repère. Et puis, pour nos vies. Et puis, si je perds le point de repère, ben je peux aller m'échouer contre un récif. Je peux faire un naufrage. Je peux tout perdre. L'équipage. Je peux me perdre dans l'océan. Je peux aller vers une tempête. Donc, je ne suis plus protégé. Je n'ai plus de protection dans ce monde. Vous savez qu'on a besoin de protection dans ce monde aujourd'hui. Vous savez, vous avez juste à regarder ce qui se passe. Pardon. Donc, c'est important qu'il y ait une vision. Hein? La vision, c'est l'image que le Seigneur me donne, c'est comme un phare. Et puis, cette vision-là, ça vient de la parole de Dieu. Et puis, cette parole... Vous savez que même si je lis la parole de Dieu, des fois, tu sais, notre chair, à votre tour, nous dire, ben, tu lis ça pour rien, tu comprends rien, ça donne rien, ça 50 000 fois tu le lis, blablabla. Bon, vous avez déjà entendu ça de votre chair aussi. Et puis, vous êtes tout à fait normal. Moi aussi, elle me dit la même chose. Mais la parole de Dieu, premièrement, il y a quelque chose dans le geste. Il y a quelque chose juste parce que j'ai pris le temps d'ouvrir ma Bible et de regarder. Ben, j'ai fait un geste vers Dieu. C'est comme si j'ai dit à Dieu, oui, oui Seigneur, oui aujourd'hui, j'aimerais que tu marches devant moi parce que sans toi, je ne peux rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Hein? Jésus l'a dit. Donc, juste le fait de prendre le geste un instant dans ma journée. C'est tellement insignifiant le temps qu'on met dans la parole par rapport au temps qu'on gaspille dans les choses inutiles, que c'est important de faire ce geste-là le matin, d'aller ouvrir la parole. Juste prendre un temps avec Dieu pour lui dire, oui, Seigneur, je veux voir le phare aujourd'hui. Je ne veux pas quitter le phare des yeux. Il faut connaître la direction que je dois suivre. Et puis, juste le geste, là, déjà le Seigneur va faire quelque chose. Peut-être que vous ne le saurez pas. Peut-être que vous allez penser que, tu lis ce verset-là, mais à cause que tu as fait ce geste-là, tu as invité. Tu as donné une invitation au Seigneur à intervenir dans ta vie. Et déjà, il y a une protection que tu vas avoir là. Déjà, il y a une protection parce que tu as invité le Seigneur à le faire. Vous savez qu'on a notre libre arbitre, que Dieu ne violera jamais notre libre arbitre. Mais en faisant ce geste-là, on va se connecter au phare céleste. Amen. On continue, gardez encore la correction ici. Regardez la version Louis II. Non, c'est l'inverse. Non, c'est ça, Louis II. Verset 19, ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend et n'obéit pas. Regardez dans la version Darby ce que ça dit. Un serviteur n'est pas corrigé par des paroles car il comprend, mais il ne répond pas. Et l'image que Dieu m'a donnée quand j'ai lu ce verset-là, c'est, on parle d'un serviteur ici, mais on peut être des serviteurs de Dieu. Et puis quelquefois, il y a des serviteurs de Dieu qui servent dans l'Église, mais ça fait longtemps qu'ils n'entendent plus. Ils n'entendent plus la parole. Sont dans un ministère parce qu'ils pensaient que leur valeur était dans ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont sauté à pieds joints sur un ministère. Ils voulaient un ministère, 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 ministère. Et puis là, ils sont mis à faire. Tu sais, à faire, à faire, à faire, à faire. Avec une chair qui est déchue, avec une chair qui est corrompue. Et puis là, il y a un cercle vicieux qui s'installe parce que la personne, là, elle n'entend plus. Elle n'entend plus. Et puis, pourquoi? Parce qu'elle ne sert pas avec son cœur. Elle ne sert pas avec par amour. Comprenez? Je dois... Un serviteur de Dieu, sa motivation, ça doit être l'amour de Dieu. Il doit avoir à cœur de servir parce qu'il a senti l'amour de Dieu. Et parce que Dieu l'aime, ça lui donne la motivation de servir dans un ministère. Malheureusement, c'est pas tout à fait ce qu'on enseigne à nos serviteurs dans l'Église, à nos diacres. Parce que là, tout le monde veut être diacre parce que leur valeur est dans ce qu'ils font. Et puis, ils voient que les gens qui ont des ministères pour eux autres, ça, c'est comme une élévation, là. C'est comme une gloire qu'il y a là-dedans. Et puis là, ils veulent faire ce ministère-là parce qu'ils veulent, pour être aimés de Dieu, pour être aimé des gens. Mais là, ça, c'est une grosse, grosse erreur, parce qu'on ne fait pas les choses pour que Dieu nous aime, ou pour que les gens nous aiment. On sert dans l'Église parce que Dieu nous aime, il va nous donner un cœur pour servir, puis notre motivation, ça va être l'amour. Donc, c'est très différent, parce que les points de vue vont être très différents des serviteurs. Le point de vue du serviteur qui sert pour se faire aimer, ben sa référence, c'est lui. Son point de départ, c'est lui, parce que lui, là, il veut avoir quelque chose. Il fait quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Comprenez? Mais l'amour agapé, elle ne prend pas, elle donne. Et ça se reproduit pas avec une chair. C'est impossible. La chair est incapable de faire ça. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais être un serviteur, malheureusement, inutile, même nuisible dans la maison de Dieu, parce que mes inspirations vont venir de la chair. Et puis ça, c'est très dommage, parce que ça fait du dommage dans l'Église, ça fait du dommage au travers des frères et sœurs. Et puis, c'est l'image que Dieu me donnait en particulier. Et puis ça fait que les gens ils font des choses, puis en plus là ils se mettent à dire bon ben là on leur doit quelque chose là. On leur doit quelque chose parce qu'ils en font beaucoup dans l'église. Fait que là, faut qu'il y ait de plus en plus d'honneur, faut qu'il y ait en plus de reconnaissance, de gloire, puis tout ça, là, ça suit. Tandis qu'un serviteur qui sert, puis sa motivation, c'est l'amour de Dieu, mais ce serviteur-là, là, c'est une bénédiction pour les frères et sœurs, c'est une bénédiction pour l'Église. C'est quelqu'un qui demande jamais, mais qui donne. Il donne sans compter. Il donne, il prend pas, il donne. Tandis que l'autre, son service est conditionnel. C'est comme l'amour humain puis l'amour divin. Hein? C'est un peu le même principe. L'amour humain, il prend. La chair apprend. Moi, 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 moi. Mais l'amour agapé, elle donne. Dieu Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Et puis, dans les serviteurs, c'est la même chose. Puis, c'est ce que Dieu me montrait dans ce verset-là. On va terminer là-dessus. Parce que trois versets très importants qu'on a vus ce soir. Et puis, ces serviteurs-là, là, quand ils sont dans cet état-là, ils entendent la parole, ils la comprennent, mais ils répondent pas. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas là. Ils ne servent pas avec l'amour de leur cœur, ils servent avec leur chair. Et puis ça, des fois, ça peut être difficile à entendre pour des personnes, mais ça doit être dit, parce que ces gens-là sont nuisibles dans la maison de Dieu. Ils font beaucoup de dommages dans la maison de Dieu, et puis... Et puis n'importe qui sert avec sa chair, là. Dans, là, l'exemple que le Seigneur nous donne, c'est ça. Mais dans n'importe quel ministère, c'est la même chose. Donc, imaginez quand un pasteur est charnel, en plus. C'est spécial. On est tous dans des chairs. Mais c'est pas la chair qui doit dominer, c'est l'amour de Dieu. Et puis... ça, ben, ça se fait en développant une relation personnelle avec le Seigneur, puis en servant à, c'est l'amour de Dieu qui nous motive à servir. Si on sert pour avoir une position dans l'église, pour avoir un pupitre, pour avoir une église, pour avoir ci, pour avoir ça, pour montrer aux autres qu'on est bon, on va détruire la maison de Dieu, on va diviser la maison de Dieu, il va y avoir des cadavres partout. Tout ce qu'on va regarder. Parce que l'ennemi a passé. Donc, on termine là-dessus. Si vous voulez, on va prier, on va demander au Seigneur qu'il fasse de nous des serviteurs agapés, qui servent dans l'amour agapé. Et puis, je vous souhaite un excellent restant de reste de semaine. Et puis, que Dieu vous bénisse abondamment. Ben, Seigneur, on veut te dire merci pour ces enseignements ce soir. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est un phare pour nos vies. Seigneur, on te demande d'écrire ces paroles dans nos cœurs, de faire de nous tes serviteurs, de nous prédisposer nos cœurs, d'enlever ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs, de le remplacer par ta portion, pour qu'on puisse recevoir ton amour, Seigneur, et la redonner, et que ton amour, Seigneur, soit la seule motivation pour nous de servir, pour que le nom de Jésus soit glorifié et compris. Amen. Merci beaucoup tout le monde, et bonne semaine.